Bonjour! Bonjour, ma princesse!
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Sarah Connor.
Non. Je suis ton père.
Tu n'es qu'un jouet!
Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny!
Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon!
Excusez-moi. Avez-vous jamais dansé avec le diable au clair de lune?
Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission de Ciné Primitif, toujours en compagnie de Dahu et Bobo.
Salut tout le monde.
Bonsoir, bonsoir.
Ça va, la forme?
Nickel et toi?
Oh, impeccable.
En pleine forme, ravi de se retrouver ce mois-ci pour un thème extraordinaire.
Un thème extraordinaire, c'est normal, c'est moi qui l'ai choisi.
Voilà, il fallait que je te fasse mousser un petit peu.
Merci, ça me fait plaisir, ça fait toujours du bien. Et le thème aujourd'hui, c'est super-héros. Et je sais que vous avez une âme de super-héros, donc j'ai pensé à vous en choisissant ce thème.
Ah ben, on est les super-héros de la vie quotidienne.
C'est ça. Comme d'habitude, on va présenter 6 films de chacun et puis une musique issue de ces films. Et je vous propose de commencer tout de suite avec le premier film choisi par Bobo.
Qui est... Oui, j'ai choisi Batman, un grand, excusez-moi, classique, sorti en 89 avec un Oscar de la meilleure direction artistique, avec au départ 48 millions de budget et un bénéfice de 400 millions quand même, hein. C'est pas mal, hein.
C'est pas mal.
Enfin, avec à la réalisation Tim Burton, en producteur Michael Yuslan, qui a produit d'ailleurs tous les Batman.
Les Batman de Tim Burton.
Non.
Non.
Les 4 et après celui de Nolan et le dernier de.
Avec Robert Pattinson.
Exactement.
Et du coup, il a aussi produit Batman et Robin.
Merde. Il a tout produit.
Ah, merde.
Il a produit tous les Batman.
Okay.
C'est pas compliqué. Donc Yuslan, il a produit tous les Batman.
Ok.
À la distribution. Et je commence par Jack Nicholson, qui est le premier nom à apparaître effectivement sur le générique, qui a obtenu pour le film 60 millions de dollars. L'énormité de ce chiffre est à mettre en parallèle avec le fait qu'il ait touché un pourcentage sur les recettes du film. Dans le rôle de Batman, Michael Keaton, qui... alors moi, je l'adore dans le rôle de Bruce Wayne. Dans le rôle de Batman...
On est d'accord. C'est aussi mon...
Voilà.
Comprends pas.
C'est pas le pire,
mais bon...
Les deux qu'on suivit, c'était pas ouf.
Dans le rôle de Bruce Wayne, je le trouve très 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 bon. Mm. Moi, et vraiment, je l'ai trouvé vraiment...
Ah, c'est une alchimie entre lui et Tim Burton qui marche assez bien aussi.
Ouais, et je l'ai trouvé vraiment bon dans le rôle de Bruce Wayne. Puis après, faut voir aussi que le costume à ce moment-là de Batman, et il est figé.
C'est rigide.
Il peut pas tourner.
Il peut pas tourner la tête.
Ça se voit pendant les scènes de combat.
Donc si tu veux... ça a joué aussi dans le truc. Mmh. Et puis bien sûr, on a Kim Basinger, la magnifique Kim Basinger, faut pas l'oublier quand même. Femme de Alec Baldwin, excusez-moi. Synopsis, le célèbre et impitoyable justicier Batman est de retour, plus beau, plus fort et plus dépoussiéré que jamais. Il s'apprête à nettoyer Gotham City et à affronter le terrible Joker. Je précise pour dépoussiérer que, si vous voulez, on est sur le premier long métrage quand même, après une série dans les années 50-60.
60-70,
ouais,
je
dirais. Ouais. Voilà, catastrophique.
Sans couleur.
Ah, catastrophique.
C'est une série comique en fait.
Voilà. Essayez de regarder la scène avec le requin.
Oui, j'allais dire, il y a les scènes nanardesques qui sont devenues cultes.
Oh, les énigmes aussi avec le swap.
Mais c'est volontaire, on est d'accord.
C'est volontaire parce que les super-héros à l'époque étaient vraiment un truc vu pour les enfants.
Ouais, voilà. Fallait faire rire.
Oui.
Mais donc donc on passe véritablement sur le premier long métrage de Batman et qui va faire la légende de Batman. Je voulais parler du père quand même de Batman, Bob Kane, qui devait faire apparition dans le film, donc celui qui a créé Batman, hein, le comics, se devait d'être lui qui présente la fausse maquette de Batman présentée par les journalistes. Malheureusement, il est tombé malade le jour du tournage. Et on n'a pas pu y figurer.
Oh, après, ce film est génial. Hein. J'ai revu, ça faisait un moment que je l'ai vu, mais il est long, mais le rythme est tellement bon que tu te fais pas chier. Aïe. Performance de Jack Nicholson, je la trouve cool.
Moi, j'ai quelques petits bémols, parce que sur le choix de Michael Keaton, et puis aussi, il y a des moments où c'est un peu kitsch, où ça a mal vieilli, les cascades et tout.
Après, il n'y a pas de concurrence, quoi, donc...
Ouais, je sais pas, après, honnêtement, moi, je suis plus fan des Batman de Nolan, enfin, de Christopher Nolan.
C'est une autre approche, j'adore aussi, mais c'est une autre approche. Moi, en fait, je trouve moins gothique et plus sombre et plus proche du comics que le défi. J'adore le défi aussi.
Bah, je préfère le deuxième, ouais.
Le défi, il est plus proche de l'univers de Burton et celui-là respecte plus un peu l'univers du comics. Même si dans le défi, c'est toujours de nuit, le jour, on le voit jamais à Gotham City. Hein. Mais je trouve que les performances de Jack Nicholson, elles sont toujours bonnes, quoi.
Le film, c'est pour ça que le premier nom à apparaître à l'écran, c'est celui de Jack Nicholson.
J'ai même pas fait gaffe,
ça. Pas lire. Donc en fait, c'est pas limite, tu vois, t'aurais pu appeler le film Joker.
Ouais.
Parce que tu connais rien de Batman, tu vois rien de sa vie, etc. Par contre, tu vois la création du Joker, était avant, qu'est-ce qu'il devient.
Je trouve que mine de rien, c'est un de ceux où on voit le plus Batman, de films de Batman, et on voit plus Joker.
Mais t'as la construction du personnage du Joker.
Et ça, j'aime.
Une chose que t'as pas sur le Batman. Batman, il arrive, c'est Batman, il est là.
Je suis d'accord.
Et Alors que là, t'as la construction du personnage du Joker.
Et ce que j'aime bien, c'est que t'as la construction du personnage du Joker créé par Batman, mais en même temps, c'est le Joker qui a créé Batman. Et ça, c'est pas mal dans ce film. Je sais pas si c'est un truc des comics et tout.
Non, c'est un truc qui a toujours été un comics. Sans le Joker, il n'y a jamais eu Batman.
Et inversement.
Inversement.
C'est ça. Ok, ouais.
C'est pour ça, dès le départ, premier film, c'est Batman Joker.
C'est l'anti-Batman.
D'ailleurs, l'étrange visage du Joker avec les coins de la bouche profondément incisés a été inspiré par L'Homme qui rit, un film de 1928. Après, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire, mais moi, je trouve ce film.
J'ai un truc à dire sur le thème.
Il est extraordinaire parce qu'il pose les bases de tout et sur l'univers Batman. Enfin, Batman, c'est
qui casse tous les codes des films de super-héros qu'il y avait jusqu'à là.
C'est un des films de super-héros qui est pas ridicule, qui est un peu
et
ambiance
puis, dans
sombre.
Dans celui-là, Batman tue des gens. Alors, c'est un des seuls super-héros généralement que tu vois dans les films où il tue pas. Tu vois, il fait des coups corps à corps, les mecs finissent tout plat, mais ça va jamais jusqu'à la mort.
Ouais. Comme Spider-Man.
C'est ça, mais là, non, on est sur du Batman badass, donc c'est vraiment cool.
Un classique, quoi.
Très, très grand classique, et une performance extraordinaire de Jack Nicholson.
Mais ce film, qu'est-ce qui serait sans le thème, quoi ?
Voilà, c'est ça.
C'est ça, donc à la base, devait y avoir Michael Jackson, à la base, au lieu de Prince, qui devait...
La musique de fin, sur la parade.
Prince il a composé pas mal de musique sur la BO, etc. Donc à la base ça devait être Michael Jackson. Bon bref, il a pas pu parce qu'il avait énormément de concerts à ce moment-là. Donc ça a été Prince.
J'allais venir justement à la musique de Prince, séquence Ouya. Je trouve ça super bizarre parce que t'as pas de bruit d'ambiance. En fait, t'as que la musique et ils sont sur les chars et parade. Et t'as vraiment que la musique et pas d'ambiance de foule ou de. Je sais pas si c'est un désir de Prince parce que j'ai quand même un ego.
Il y a peut-être de ça. Après, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais m'attarder surtout sur Danny Elfman, qui a réalisé le thème principal et qui sera utilisé dans la série animée.
Qui est génial,
qui est trop bien.
Qui est monumental. Enfin, moi, c'est toute mon enfance.
Mais on a grandi avec, c'est pour ça.
Pour l'avoir revu, tout n'est pas bien. Mais c'est quand même cool.
Non, mais elle est extraordinaire. Et j'adore. J'adore cette série. Je l'ai regardée étant gamin dans tous les sens. Et le thème principal, c'est Danny Elfman.
Ah, puis c'est resté dans les. Autant que le thème des Dents de la Mer, des choses comme ça. Des trois premières notes, tu sais.
Tu sais, c'est Batman. Ouais.
Voilà. D'ailleurs, je pense que vous allez reconnaître tout de suite. Vous voulez qu'on se lance ?
Allez, c'est parti.
Allez, let's go. Thank you. Et de retour dans Ciné Primitif, c'était le film présenté par Bobo, c'était Batman de 1989.
Avec la BO Danny Elfman que vous reconnaîtrez.
Avec le thème principal.
Voilà, ouais. Dans n'importe quelle situation, trois premières notes, c'est Batman.
Un film suivant après Batman, on est ouais. Bien sûr.
Eh bah, c'est un inspecteur connu. Ce n'est pas Columbo, ce n'est pas Derrick.
Ça aurait pu, hein, pour super-héros.
Ah, c'est un peu le Derrick de Détroit. Non, Robocop, bien sûr.
Ah, ouais.
Donc, le film est réalisé par Paul Verhoeven en 87. Il dure une bonne heure 40. La musique est composée par Basil Poledouris, qu'on a entendu sur plusieurs autres films comme Starship Troopers.
Exactement. Yes.
De Paul Verhoeven aussi.
Quel artiste.
Donc, Paul Verhoeven, il y a eu Total Recall aussi qu'on a présenté, ouais, réalisé par lui.
On aime bien Paul Verhoeven.
À la distribution, on trouve Peter Weller. C'est lui qui joue Alex Murphy, donc alias Robocop. Peter Weller, on le retrouvera dans Planète Hurlante. Sa collègue Nancy Allen, qui joue l'officier Anne Lewis, on l'a vu dans Carrie, je crois. Kurt Smith, qui joue Clarence Boddicker, c'est...
Bad 70 Show,
le père de... je sais plus son nom, mais un des personnages principaux de Bad 70 Show.
Ouais.
Oui, le père.
Et Paul McCrain, c'est un des hommes de main, c'est celui qui est à la station-service avec l'acide et tout à la fin. Bah lui, on le voit dans Urgence, c'est Romano. Le gros con dans Urgence.
Pour les fans d'Urgence.
Pour les fans d'Urgence, un bobo.
Pour tout le monde.
Non, j'ai jamais regardé un épisode d'Urgence.
Alors, pour le petit pitch, dans un Détroit dystopique gangrené par la criminalité et contrôlé par la multinationale OCP, un policier, Alex Murphy, est sauvagement exécuté par une bande de criminels. Son corps est récupéré et transformé en cyborg mi-homme, mi-machine, Robocop, conçu pour faire régner l'ordre. Mais derrière l'armure, Murphy conserve des fragments de son humanité et cherche à se venger de ses assassins, tout en découvrant la corruption au sein de l'OCP. Donc Robocop, comme la trois quarts des films de Verhoeven, ça balance. Ouais. La satire, du moins, c'est une satire de la société américaine sur le déclin de... Bah déjà, du moins, t'as Détroit, c'est le déclin de l'automobile, c'est une ville qui a mal vécu la...
Bien sûr, la transition, ouais.
Et du coup, mettre un personnage robotique dans tout ça, avec une ville précurseur, on va dire, sur la... Ça avait un sens. Et après, il y a tout le truc des fausses pubs propres
À Verhoeven. Là, comme dans Starship Troopers.
Exactement.
Mais ce qui est génial, en plus, c'est que tu peux regarder ça comme un film de bourrin où tu te poses pas de questions. Mais t'as vraiment une seconde lecture.
Mais ils ont galéré à pas le faire classer, je crois que c'est X aux États-Unis, moins de 18, parce que
tu le fais
ça sort pas en salle et tout. Ouais. Mais il est sorti en moins de 17. Ok, ouais, choix.
Non, mais il est ultra violent.
Mais ils ont dû couper des scènes de violence quand il se fait tuer, Murphy, tout ça, alors que c'est bien déjà.
Ouais, c'est déjà bien.
Là, on en donne. Ouais. Là, pour le coup. Bon, Robocop est sorti sur plusieurs supports. Il y a eu des suites. Il y a eu le 2, le 3 avec le même. Avec Peter Weller en acteur principal.
Mais pas le même réalisateur.
Non, c'est pas le même réalisateur, bah, bien sûr. Ils ont gardé le thème principal. Il y a eu une série. Il y a aussi pas mal de comics, il y en a des sympas. Mais la base, c'est vraiment Robocop 92 qui a dû arriver un peu comme un ovni, parce que déjà à l'époque, le nom, les gens se disaient c'est pas de la merde quoi.
Ouais. Robocop. Bah, c'est comme Starship Troopers, tu vois, c'est des noms en fait qui te donnent pas envie. Oui. Tu penses voir un gros blockbuster où ça pète. Mais...
Mais mine de rien, ça a super bien marché. Les projections test, il y a pas eu, à part quelques réductions pour que ça soit déclassifié et que ça puisse sortir en salle et pas que dans des cinémas pour adultes.
Après, moi je suis un vrai fan déjà de Paul Verhoeven et de ce film, parce que en fait, dès qu'il réalise un truc, enfin voilà, c'est bien réalisé, c'est comme Total Recall, comme Starship Troopers, enfin voilà, et d'un coup t'as une action qui mérite de la violence, mais là il explose en termes de violence à chaque fois.
celui-là ça met la barre quand même.
Il a zéro filtre et là il balance une violence inouïe et tu fais oh,
parce que...
mais qui est pas gratuite, qui est réelle, qui est mais qui contraste complètement avec ce qu'il fait sur le reste du film, et j'adore ça.
Parce que pour l'anecdote, Peter Weller, qui va devenir Robocop, avant de le devenir, est policier et est engagé dans la ville. Il travaille pour l'OCP, qui le met là-haut parce que c'est un bon flic.
Il l'envoie au charbon.
Il l'envoie au charbon pour qu'il meure et justement le faire devenir bionique.
Ah, t'attends 30
minutes. Et c'est ça que ça dénonce aussi, hein, les flics qui sont persuadés de faire du bon boulot et tout. Enfin, on entend parler un peu de grève, il y a des flics qui se rebellent dans le film et qui sont pas contents, il y en a qui sont un peu plus lucides que les autres. On t'envoie pas au charbon pour faire n'importe quoi, pour défendre une ville qui est déjà pourrie par la corruption.
C'est ça, parce que lui, il vient des beaux quartiers à l'origine.
Ouais.
T'es là pour
C'est un idéaliste.
C'est un idéaliste.
Il est méchant et gentil.
Il restera jusqu'au bout. Ouais. Mais il y a des scènes cultes comme la femme qui va se faire violer, où il tire entre les jambes et il démembre.
Bien fait.
Démembre.
Non, il castre. Et il démembre pas, il castre.
Et ablation des testicules.
Voilà.
Le thème est resté culte, hein, c'est peut-être pas au point de Batman, mais c'est un thème que tu peux reconnaître direct comme... Ouais. Comme Jurassic Park, comme des choses comme ça.
Mais après, Polyduris, il est magique comme compositeur.
Complètement, et tu sens une alchimie entre les deux, de toute façon, chaque fois, ça marche. Donc, le film a eu un énorme succès dans les années 80, que ça soit en produits dérivés...
Les figurines, tout ça, même pour les enfants, bizarrement.
Le pistolet, gros, le pistolet. Ouais. Le flingue de Robocop, ben, on l'avait tous. Le pistolet à billes Robocop.
Je suis trop jeune.
Je l'ai pas eu.
Et donc pour en revenir au thème...
Pour en revenir à Robocop,
Non, au thème de...
Un thème musical. Le thème de Robocop, c'est une musique de Basil Poydus. Shop, je me souviens plus.
Rock Shop.
Le thème de Robocop revient dans presque tous les morceaux et n'est jamais très long. Voilà.
Et de retour dans Ciné Primitif, c'était...
Le thème de Robocop.
Exactement. Et on passe au film suivant. Un film que j'ai choisi pour le thème super-héros et le nom est super, tout simplement. Sorti en 2011, le réalisateur et qui est aussi scénariste, c'est James Gunn, qui a réalisé aussi Les Gardiens de la Galaxie 1, 2, 3, Suicide Squad, Superman de 2025, enfin il est resté dans le truc de super-héros.
Ouais, mais excellent. Les Gardiens de la Galaxie, tu vois.
Excellent. Le 1, c'est sympa. Bon, après, moi je suis pas fan de Marvel, mais.
Je suis d'accord, mais ça fait partie des celles qui sont quand même regardables.
Ouais, les Gardiens de la Galaxie,
le premier,
surtout.
Et ben je vous l'accorde, je les ai pas tous vus.
Non plus. Mais le premier, sympa.
Mais après, ce qu'il y a à savoir, alors pour les connaisseurs, il a participé aussi au scénario et à la réalisation de Troméo et Juliette. C'est une comédie noire romantique produite par Troma. Dahu, je pense que tu connais.
Bah bien sûr.
Une société qui produit des films indépendants de comédie trash.
Je n'en ai pas encore proposé. J'ai hésité avec à prendre Toxic Avenger pour ce thème.
Pour les gens qui connaissent. À la distribution, on a Ren Wilson qui a fait La Maison des Mille Morts de Rob Zombie.
Du coup, je viens de l'apprendre, j'avais jamais fait gaffe, mais effectivement, c'est bien.
Il finit en poisson ?
Oui, c'est lui qui est en sirène.
En sirène.
Il y a encore une.
Juno, mais surtout connu pour la série The Office.
Mais même dans Juno, tu vois, je pense qu'on n'est plus avant de...
Et moi non plus, ça fait longtemps que j'ai vu, mais... Et Elliot Page, qui a fait les films X-Men, Inception et Juno aussi, pour le coup. Liv Tyler, fille du chanteur d'Aerosmith.
Et d'Arwen, surtout.
Mais qui est Arwen dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et Kevin Bacon, qui a fait Footloose, Hypnose, Mystic River et le premier Vendredi 13.
C'est vrai.
Voilà, bon, ça n'a pas l'air de vous faire plaisir.
Bah si, c'est vrai, je suis d'accord, c'est bien que t'aies mis...
Non mais excuse-moi...
Il a fait aussi Très Mort, ce que j'adore comme film.
Moi, personnellement, je veux dire, si dans le film, il n'y a pas Liv Tyler et Kevin Bacon, mais...
Oui, ah ouais, t'as pas aimé, mais on va en reparler.
J'aurais
mis quand même pour Kevin Bacon, j'ai envie de dire Très Mort.
Oui, il a fait oui aussi. Alors pour le petit synopsis, super, c'est l'histoire d'un homme qui décide de devenir un super-héros après avoir vu sa femme, ancienne toxico, succomber au charme d'un dealer. Et il a pas de super-pouvoir, mais il pense que devenir un super-héros est sa destinée. Et il fait pas de demi-mesure en fait. Enfin, si tu doubles dans la file, si tu vends de la drogue, pour lui c'est pareil quoi. T'es un méchant et je te tape.
Oui.
Alors maintenant, Bobo, qu'est-ce que t'as pas aimé dans ce film ?
C'est tout. je n'aime rien dans ce film.
Mais sérieux ? Bah,
vraiment, à part Liv Tyler et Kevin Bacon.
Moi j'adore.
Mais c'est pas objectif, dire juste t'aimes pas.
Laisse-moi développer. Je n'aime pas la manière dont c'est filmé. En plus, je l'ai regardé que en français, parce que j'avais pas la version VO. Donc le doublage, il est dégueulasse. Et je sais pas, déjà le personnage principal, il me débecte.
Mais oui, mais c'est le but.
Non, mais il me débecte, enfin, non, c'est pas possible.
C'est vrai ?
Okay. Ah ouais, ça m'a débecté, alors je suis désolé, hein, mais j'ai énormément de mal et...
Mais ce que je disais en off, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi, parce qu'il a reçu des très mauvaises critiques
ce
film.
C'est radical opposé, je dois faire partie des gens.
Ouais, pareil, j'ai adoré ce film. Je trouve justement...
Je trouve ça couillu, parce que James Gunn, à l'époque, il était pas connu. Il arrive avec un rêve d'enfant de faire un comics en film, tu vois.
Et surtout que c'était une première, un loser qui devient super-héros, quoi. Donc maintenant, ça paraît classique. Avec Kick-Ass, dont on parlera...
C'est pas une première.
Non. Mais normalement, ils se font piquer, ils ont des super-pouvoirs, etc. Là, l'autre, il est complètement timbré, et il joue au super-héros, en fait. C'est même pas un super-héros.
La prise de parti de la réalisation, au caméra-épaule, tout le temps, de jamais de plan fixe, tout est en caméra-épaule, filmé un peu comme un documentaire.
C'est génial.
Enfin, c'est pas filmé, du moins, c'est pas réalisé comme un documentaire, mais c'est filmé comme un documentaire, et du coup... T'as une immersion qui est sympa parce que le mec est complètement jeté en fait.
Il est dépressif de fou.
Après, moi,
il croit faire le bien, mais en fait, il est cinglé.
Ce qui m'a énormément dérangé aussi, c'est le côté religieux.
Et justement, c'est satirique.
Et attends, c'est Rob Zombie qui fait Dieu. C'est Rob Zombie qui fait Dieu.
Non, mais là-dessus, je suis d'accord. Mais pas tant que ça. Parce que justement, il suit les princes.
Et mais sans doute que tout est faux.
Et justement, au fait, si tu veux, il y a un mec qui double.
Il agit quand même dans cet objectif.
Objectif de Dieu dans une scène où il explose la tête d'un mec à coups de clé à molette parce qu'il double dans la file.
Oui.
Tu vois, donc au fait, tout est dit, tu vois. C'est justement, c'est du second degré.
Et même lui, il le dit.
Ça dénonce, quoi.
Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai des visions.
Oui, c'est ça.
Mais on double pas dans la file, on double pas.
Mais il est dans le déni, en plus, sa femme veut le quitter. Lui, il est persuadé qu'elle a été kidnappée par un gang, ce qui s'avère un peu vrai. Mais voilà, tu vois, c'est un mec qui veut un peu de pitié, tu vois.
Et ouais, non, mais ce personnage-là... Non, je n'adhère pas, il me débecte et... Non, je n'adhère pas.
Ah, je pensais pas. Okay. Ouais, je croyais que c'était un film qui passait pour tout le monde, tu vois. J'ai pas regardé les critiques et tout.
Ouais, il est plutôt...
c'était la troisième fois que je voyais.
J'ai la limite à situer
j'ai même rigolé à des moments.
Le meilleur passage pour moi du film, c'est quand Elliot Page se fait éclater la tête.
Non, mais je pensais pas qu'on pouvait avoir un avis si négatif sur ce film. Ah, moi, je pensais que c'était un truc.
En fait, il y a plein de choses qui me dérangent et qui sont entremêlées. Bah, qui sont...
Ouais, moi, je trouve qu'on sent sa patte avant qu'il fasse des vrais Marvel, des gros films.
Ouais,
en fait.
C'est ça. Ouais.
Qui s'est fait la main en se faisant plaisir. Moi, c'est un film où il se fait plaisir, j'espère.
Ouais, mais je le trouve dégueulasse.
Ok, ouais, bah, je suis pas du tout du même avis que Bobo, mais.
Non, mais.
Je vous conseille de
après,
plutôt.
Après, chacun fait ses goûts, hein, c'est comme ouais, ça. Hein,
exactement.
Mais bon, t'as argumenté, ouais, c'est tout. Je suis pas d'accord avec tes arguments, mais.
Voilà, ouais, c'est ouais, tout. Je me suis ennuyé, je me suis vraiment ennuyé. Et je t'assure que j'aurais.
Je pensais pas que c'était ce film-là que t'aurais pas aimé.
C'est vrai, ouais, c'est dingue. Ça, c'est... Ah, mais bon. Ouais, ouais. Bah, y a Team Bobo, Team Nono, choisissez votre camp.
Moi, ma team, on s'en fout.
Ouais, toi, t'as aimé, donc t'es dans la team Nono, apparemment. Non, en tout cas, la musique et la BO est signée Tyler Bates, qui a fait aussi Halloween 1 et 2 de Rob Zombie, Watchmen, que j'ai pas aimé, John Wick, que j'ai pas vu, et Devil Rejects, que je vais bientôt vous présenter. Et on va pas se mentir, la musique est cool quoi. Si t'as pas aimé le film, t'aimes au moins la musique. La
musique
ouais, 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 non, mais ouais, bien sûr.
Et du coup, la musique c'est Two Perfect Moments. Ouais. C'est parti. Et de retour dans Ciné Primitif, c'était la musique de super film que je vous ai présenté. Et c'est ouais, au tour de Bobo. Un
film super qu'on pourrait quasi...
Arrête, Bobo.
Dire film nul. Bon, arrête. Bref, moi, allez, on passe au quatrième film, Juge Dredd. Et oui, messieurs, dames, et oui, sorti en 95 avec la réalisation d'Annie Cannon qui a fait The Young American avec Harvey Keitel.
Et Phoenix et Kyle Jota.
Voilà, exactement.
J'ai jamais vu les deux.
Ah, regardez-les, c'est sympa.
Okay.
À la distribution de ce film, nous avons Sly, Sylvester Stallone, bien sûr, bien évidemment. Armand Assante, qui fait très très peur dans ce film. Max Von Sydow, qui a joué dans Conan, et je fais un petit clin d'œil à mon ami Dahu à ma gauche.
On pense à toi, Thierry.
Qui a joué aussi dans Dune, bien sûr, l'ancien SOS Fantôme 2, Minority Report, Shutter Island. Max Von Sydow, que vous avez vu, bien évidemment, à l'écran. Diane Lane, que vous avez vu dans Jumper, hein, qui fait la mère de l'acteur principal. Eh oui, eh oui.
J'ai vu qu'une fois ce film.
Man of Steel, Justice League.
Merde.
Et Rob Schneider, que vous avez vu dans Demolition Man, forcément avec aussi Sylvester Stallone. Mmh. Et maman, j'ai encore raté l'avion. Le synopsis, je ne l'ai même pas écrit. Écoutez-moi bien, je ne l'ai même pas écrit.
C'est qui l'a écrit, le film, alors?
Je ne l'ai même pas écrit sur ma fiche. Le synopsis, je vous le fais en direct, comme ça. C'est un film post-apocalyptique. Il y a eu une guerre nucléaire. L'être humain, l'espèce humaine s'est retranché dans des méca-cités où tout autour, les terres sont désertiques. La population dans ces méga-cités augmente inlassablement et engendre énormément de criminalité, d'insurrection, etc. Et une seule alternative est trouvée par le gouvernement à ce moment, c'est d'instaurer des individus qui sont à la fois policiers, juges et bourreaux. Que l'on appelle les juges. Voilà. Alors, j'adore ce film sur les 25 premières minutes. Ce film.
Dommage qu'il dure aussi longtemps.
Non, mais ouais, il dure une heure et demie. Mais alors, les 25 premières minutes, je vous assure.
Ouais, c'est plus sympa, j'en dis les 40 premières, 30 premières. J'en ai rajouté 5 minutes.
Allez, on va dire la première demi-heure. Mais regardez-le pour la première demi-heure. Il est monumental. Sur cette première demi-heure. Bah,
bien sûr, parce que c'est celle qui ressemble plus vraiment à Judge Red, l'esprit de Judge Red.
Exactement, exactement. Après, il faut prendre conscience aussi qu'on est à l'apogée de la carrière de Sylvester Stallone. C'est-à-dire qu'il est, au max de sa forme, au max de sa popularité. Et après ça, après ce film, ça chute.
Ah ouais. Comme beaucoup d'acteurs du style. Hein.
Voilà. Et là, en fait, c'est ce film qui va engendrer un petit peu sa chute et derrière, il sort.
J'aurais dit Cliffhanger. Quelques mois après.
Cliffhanger, c'est avant.
Ah, c'est juste avant.
C'est avant. Ce qui sort, c'est Assassin. Donc vraiment, juste là, j'étais.
Pour moi, Cliffhanger, il était à son top et c'est là où il arrivait à son paradoxe du ridicule aussi, quoi.
Non.
Jusqu'à la main nue, mais c'est pas moi qui fais les cascades.
Non, Judge Dredd, t'es au top, de la célébrité de Sylvester Stallone, etc.
Ouais, et puis c'est action movie, dis-moi, c'est la paire d'action movie.
Voilà. Et tu le vois, il en rajoute. Et en plus, c'est un rôle avec le casque, où effectivement, lui avec son faciès, où tu ne vois que sa bouche, où il a justement cet handicap, où il a un côté de la bouche qui fonctionne pas, qui va éternellement le suivre, en fait.
Et c'est là où je voulais venir, en fait, c'est que le gros problème de ce film, c'est qu'il enlève son casque.
On le voit de temps en temps.
Robocop, l'acteur, il est masqué presque tout le film. Les acteurs voulaient pas le jouer parce qu'on les voyait pas, en fait, c'est
à la fin du film.
Là, je pense que Stallone, il a plus, poussé un peu.
Stallone, il a l'apogée.
À partir des 30 premières minutes, il est noir. À la fin de la période que tu dis, c'est justement le déclin du rôle où ça peut être n'importe quel film.
C'est ça. Et bon, c'est là-dessus, en fait, que je. Oui. Moi, je suis pas fan. C'est sur, en fait, l'histoire, le synopsis. J'adore les 30 premières minutes. C'est génial. Après. C'est pas du Judge Dredd, c'est autre chose.
C'est du Stallone. Moi, je pense que Stallone, il a mis son grain de sel dans la réalisation, dans le film, dans la production.
Bien sûr.
On en a parlé tout à l'heure, Demolition Man.
Ouais.
C'est exactement la même... sauf que Demolition Man, ils ont reconstruit le scénario, mais la fin du film, ça serait autre chose que Judge Dredd. Parce que ce qui est quand même con, c'est l'intro commence par des belles maquettes, des beaux fonds, des... On te montre le futur, steampunk et tout, nanana.
Et c'est pour ça, je te dis, les 30 premières minutes...
On a claqué le budget, vite.
Elles me font rêver, ces 30 premières minutes, elles me font rêver, moi.
Mais en regardant le film, j'ai eu du mal à voir, enfin, à savoir si je regarde, genre, justement, une satire comme Robocop, ou si je regarde juste un film d'action comique.
Non.
Franchement,
c'est pas un film d'action comique. Non, c'est vraiment... T'es sur une satire. Une anticipation.
Il y a un entre-deux que j'ai...
Ouais, mais je suis d'accord.
Sur un post-apocalyptique, t'es sur une anticipation.
Je suis d'accord, ça, dans l'englobement global de Judge Dredd, le personnage. Mais dans le film, il fait son action movie dans la période où...
Où rien ne peut lui arriver. Il est au summum de sa carrière. Stallone, il est au summum de sa carrière. Vraiment. Donc, peu importe le film qu'il fait, c'est Stallone, il est au summum. Sauf qu'effectivement, ce film ne marchera pas.
Non, et puis personnage de Rob Schneider.
C'est horrible.
Quand il voit
le personnage de Rob Schneider, justement, qui arrive après 30 minutes de... Du moins, on voit au début.
C'est là où je me dis, est-ce que c'est un film d'action comique ou... Enfin, qu'est-ce que je regarde?
En fait, c'est le personnage atypique, du moins, le personnage qu'ils mettent toujours dans les... dans les films de cette époque-là. Soit c'est le gamin qui casse ses couilles, soit ça va être...
Mais là, c'est pire, c'est Rob Schneider.
T'as 2001 dans Indiana Jones.
Oui, non, bah, ça passe mieux.
C'est une mécanique qui marche.
C'est un enfant, ça justifie. Mais... Le mec, il se comporte comme un enfant. Ça,
sauf que 2001, c'est les années 80.
Après, ça, limite, tu vois, tu peux faire abstraction.
Ok.
C'est vraiment le fait, je te dis, qu'ils partent en vrille et qu'ils se fassent arrêter, qu'ils partent, etc. Enfin, tu vois, t'arrêtes pas, juge d'arrêter, peu importe ce qu'il fait.
En revanche, le remake... Moi, je l'ai trouvé ok.
Il est extraordinaire. Dread.
Extraordinaire, j'irai pas jusqu'à là parce que le BO est pas ouf. Mais
avec Karl Urban.
Mais le film est ok.
Ouais, j'adore Karl Urban. Pas ouf.
Ah bah, c'est lui. C'est lui qui fait Dread.
Ok, et ça doit avoir un peu plus de gueule.
Et par contre, effectivement, dans le remake, tu le vois...
Il a jamais enlevé son masque.
Jamais enlevé son masque. Il y a plein de choses. Juste une petite chose qui va vous faire plaisir quand même. Petite anecdote. Et après, j'en termine là-dessus. La voix de l'ordinateur que l'on entend à plusieurs reprises dans le film est faite par une certaine Adrienne Barbeau. Elle a été l'épouse de John Carpenter. Eh oui, monsieur. Et a joué dans plusieurs de ses films, merci dont beaucoup. Fog. Voilà, c'était petit clin d'œil aux deux frangins qui sont présents ici.
Attendez
qui
mon
sont
dernier film.
De John Carpenter.
On n'entendra pas parler ce soir, malheureusement. Oh, il n'a pas fait de film de super-héros. Si. Ben oui, il n'a pas de film à présenter.
Voilà, je vous fais parler de John Carpenter. Voilà. Pour la BO, Alan Silvestri et. Cette BO, excusez-moi, le film, effectivement, la première demi-heure extraordinaire, une heure de film inintéressante. Mais alors la BO, écoutez-la, c'est un chef-d'œuvre.
On s'écoute ?
Oh oui. We'll be right back.
Et c'était la BO de Judge Dredd par Alan Silvestri.
Dans Ciné Primitif, désolé pour ça. Enfin, pas pour la musique, pour le film.
Ah, oui, la BO est exceptionnelle. Et regardez la première demi-heure. Regardez la première demi-heure de ce film qui est extraordinaire.
Pour regarder le remake.
Sinon, regardez le prochain film que je vais vous présenter. C'est Kick-Ass, sorti en 2010. Kick-Ass est inspiré de comics. Enfin, c'est clairement...
Sorti en comics avant le film.
Voilà, exactement. Mais
sorti 15 ans après Judge Dredd.
Oui. Et donc, le réalisateur, c'est Matthew Vaughn, qui a aussi participé au scénario, qui a réalisé aussi X-Men Commencement et les Kingsman, que j'ai jamais vu.
Ah, dégueulasse.
Et du coup, Kick-Ass, comme j'ai dit, s'inspire de la série de comics créée par Mark Miller, qui a fait pas mal de trucs pour Marvel. Donc je sais pas quoi exactement, j'avoue que je suis pas un grand adepte de comics. À la distribution, on a Aaron Johnson, qui a fait Tenet, 28 ans plus tard, Godzilla, le dernier, je pense, je sais pas s'il y en a eu d'autres depuis.
Ah, c'est pas celui avec Jean Reno, je t'assure.
Non, oui. Oui, voilà, t'es le dernier.
Voilà.
Chloé Grace Moretz, qui a fait 500 jours ensemble, qui est une comédie romantique cool.
Ça n'est pas vu.
Moi j'aime bien.
Déjà, quand il t'annonce.
Voilà, je sais avec Bobo, t'allais réagir.
500 jours ensemble. J'ai envie de te dire, j'ai pas envie de le voir celui-là.
Et ben, j'ai bien aimé ce film. Et...
C'est bien. Tant mieux pour toi.
Dark Shadow
aussi de Tim Burton, qui est un nouveau Tim Burton.
Puis après, tu vas nous présenter Coup de Foudre dans Notting Hill.
Voilà, exactement. Et voilà. Nicolas Cage, alors là, ça va te faire plaisir. C'est plus dans tes.
Qu'on retrouve dans 60 secondes chrono qu'on a vu précédemment dans la saison.
Mais aussi dans Volteface, Lord of War et Ghost Rider. Et Christopher Mintz-Plasse, qui a joué dans Supergrave, qui est une comédie assez cool québécoise.
J'aime bien.
C'est assez fun. Pour le synopsis, un peu comme le film que j'ai présenté avant, c'est Dave Levinsky, un adolescent gavé de comics qui ne vit que pour ce monde de super-héros. Décidé à vivre son obsession, il se choisit un nom, Kick-Ass. Il se fabrique un costume et se lance dans une bataille effrénée contre le crime. Il va très vite faire équipe avec Hit Girl et Big Daddy. Mm-hmm. Qui eux sont un peu des vrais super-héros. Quoi. Enfin, ils jouent pas dans la même cour.
Non, ils jouent pas dans la même cour. Ils sont... Ouais, et puis Big Daddy, c'est un ancien flic ou je sais plus quoi.
C'est ça.
C'est un ancien flic avec Marcus, son collègue... Il s'est retrouvé accusé de dealer.
Ouais.
Alors qu'il était en train de faire une perquise. Et,
ouais, c'est ça.
Voilà.
Voilà. Du coup, il a fini en prison. Il a décidé de se venger parce que sa
Tant
femme.
Que sa femme était enceinte.
Ouais, sa femme est morte de chagrin.
Mais un beau rôle
de Nicolas Cage.
Ouais, une belle perf.
Mais à la base, ça devait pas être lui, ça devait être Mark Wahlberg ou Daniel Craig.
Ouais, mais je trouvais que c'était une belle perf de Nicolas Cage.
Je suis d'accord.
Non mais
il correspond au truc.
Non mais il a fait des films dégueulasses dans lesquels il est mauvais.
Nicolas Cage.
Ouais.
Ah oui, ouais, c'est vrai.
Et il a fait des performances de ouf.
Oui, à chaque fois il se met à fond dans le truc, mais là je trouve ça marche bien.
Non, ça lui va bien.
Dans Living Las Vegas. Excuse-moi, il est magistral.
Ouais. Donc voilà, c'est un peu comme le film que j'ai présenté tout à l'heure, super, l'histoire d'un loser qui devient super-héros parce qu'il a envie de faire le bien.
Mais ce qui est marrant, c'est que la plupart des acteurs ont fini dans des rôles de super-héros.
C'est vrai.
Genre l'acteur de Kick-Ass joue Kraven dans le dernier Marvel.
C'est vrai.
Le mec qui son pote, là, celui qui ne sert pas de meuf, c'est lui qui fait... Super, je sais plus quoi, parce que je connais rien en super-héros.
On a fait un super-héros X-Men qui va très
vite. C'est des gens qui ont réussi, du moins qu'au final, et on se retrouve dans des films de super-héros presque 15 ans plus tard. Hein.
C'est vrai. Mais la différence de super que j'ai présenté tout à l'heure, c'est que celui-là, il fonctionne un peu plus comme un blockbuster.
Non. Enfin, moi, ce qui m'a plu dedans, si tu veux, c'est que c'est un mec, effectivement, qui est pas taillé pour être super-héros, mais qui a envie de l'être. Tu vois, en fait, c'est lui qui va chercher à devenir super-héros.
Mais il l'est pas vraiment, au final.
Mais il l'est pas vraiment.
Il est très mauvais.
Il est très, très mauvais.
Très mauvais.
C'est ça qui est bon. Mais il
J'avoue que c'est assez drôle.
Il a une vraie volonté de sa part de devenir super-héros et pas un fait de vie qui va essayer de rattraper les choses et de faire... Non. Non, là, c'est ça qui m'a plu, moi.
Moi, après, ce qui me dérange, c'est plus par rapport aux comics... la fin. Mais sinon, le film, je l'ai revu. Je l'avais pas vu depuis qu'il est sorti, du moins sorti en DVD parce que j'avais pas été le voir en salle. Et j'avais pas du tout aimé. Et là, j'ai bien aimé, je l'ai revu. J'ai fait, bon, en fait, j'étais con. C'est juste parce que je l'avais lu avant que j'ai préféré le format
passé. C'est le problème mais... quand on lit les comics avant.
Mais je suis sûr que le 2, je l'aime pas. Ouais. Du moins, moi. Ça va, il y a des trucs cool. Mais...
Et après, franchement, il y a des scènes cool, rien par rapport à la BO.
Il y a Jim Carrey dans le 2.
Oui.
Ouais.
Ah, c'était
oui.
Qui regrette ce film, apparemment.
Oui.
Non, puis surtout, il y a une très bonne BO et franchement, les scènes d'action à chaque fois.
Ah, bah la BO, on l'a entendu pendant les 5 années qu'on suivit la télé, dans tout, dans les génériques de.
La BO est tellement cool que j'ai eu du mal à choisir, quoi. Il y a eu. Franchement, le choix était difficile.
Après, pour revenir à. Merde, à Kick-Ass. Tu prends un coup de vieux, hein. Il a désabonné MySpace. Tout ça,
c'est
MySpace n'existe plus depuis 10 ans.
En tout cas, Marc Millar, dont l'œuvre est adaptée dans Kick-Ass, est également producteur du film. Et lui, il voulait pas, enfin, il a refusé en tout cas de rendre le film moins violent ou moins vulgaire, considérant que cela faisait partie de l'essence même de l'histoire.
Pourtant, il l'a fait.
Et ouais,
il l'a fait sur des moments clés qui sont très drôles dans le comics, mais je comprends. Si son film ne veut pas être déclassé.
Et ouais, c'est ça, il faut le sortir aussi au bout d'un moment.
Ouais. Je vous encourage à le lire, à le regarder, mais à le regarder avant de le lire.
Et du coup, comme je disais, c'était dur de sélectionner une musique pour Kick-Ass. Il y a beaucoup de compositeurs, en fait, sur ce film. Donc, j'ai pas tous les cités, je suis désolé. Et celle que j'ai choisie, c'est The Prodigy, Stand Up. Et de retour, comme d'habitude, dans Ciné Primitif, et c'était la musique de Kick-Ass.
Et on passe au prochain film.
Au dernier.
Au dernier aussi. Qui est L'Homme Araignée Nouvelle Génération. Spider-Man New Generation. Alors, c'est un film d'animation. Ouais, j'avais envie de le présenter sur animation, mais il y avait déjà eu les Tortues Ninja, j'avais peur que ça fasse un
peu. C'est vrai que c'est le même style. Ouais.
C'est exactement le même style, c'est sorti un peu avant. Bon, on va passer la réalisation parce que j'ai... pas d'anecdote spécialement sur le réalisateur, le scénario pareil. En revanche, sur la production, c'est Sony, parce que Sony, c'est le détenteur des droits Spider-Man. C'est pour ça que dans Marvel, Spider-Man a un peu de mal à passer.
Bah, il y est, non ?
Il est dans les Avengers, okay. Un petit peu. C'est parce que les droits propres à Spider-Man, ça appartient à Sony. C'est pour ça que t'as tous les trucs de merde, Miss Marvel.
Ok.
La Madame Web, tous ces trucs-là.
Je sais pas.
Le truc avec chauve-souris.
Batman ?
Non. Genre avec Jared Leto, Morbius.
Et Morbius.
Tous ces trucs-là, c'est des trucs Sony en fait.
Ok.
Mais Sony, ils ont un peu de couilles des fois. Sony, ils arrivent à faire des films d'animation et des films cool. Et en l'occurrence, celui-là a cassé un peu les codes des films d'animation et surtout des films de super-héros. Déjà, Spider-Man, ce n'est pas Peter Parker dans celui-là. Spider-Man, c'est Mike Morales, un adolescent afro-américain et portoricain vivant à Brooklyn, qui se fait mordre par une araignée radioactive, classique de Spider-Man, et découvre des pouvoirs similaires au Spider-Man. Il rencontre rapidement d'autres versions héros issues de dimensions parallèles, Peter B. Parker, Gwen Stacy, Spider-Man Noir, Penny Parker, Spider-Cochon. Ensemble, ils doivent empêcher le Kaïd d'utiliser un accélérateur à particules qui menace de détruire le multivers. Ce qui est vraiment sympa dans celui-là, c'est qu'ils prennent à contre-courant Spider-Man. Déjà, ils ont pris un antagoniste afro-américain. Ouais. Bon, on va dire c'est dans l'air du temps, saut 2010, saut 2020 et tout.
Non, là, c'est...
Mais ils ont réussi à faire un truc, c'est qu'on s'en fout.
Oui.
On s'en fout, là, il y a...
C'est pas pour le montrer, quoi. C'est pas genre une affiche...
Non, non, ouais, c'est ça. C'est pas... C'est on bien... le met pas en, en égérie.
C'est juste un héros, quoi. Enfin, c'est juste... Enfin,
voilà. C'est ça.
C'est une personne lambda.
Voilà, c'est ça.
Et ils ont eu, quand même, grâce à ça, quand même, l'Oscar du film d'animation, je crois, cette année-là, quand il est sorti. Le film est un carton total qui contraste complètement avec les autres films de Sony, sauf les Spider-Man. On retrouve Nicolas Cage dedans, encore.
Ah
ouais. C'est le Spider-Man Noir, c'est lui qui le fait en VO.
Ah, ok.
Ouais. Et du coup, il joue vraiment bien, il joue en mode, faut que vous l'écoutiez en VO. Ouais,
merde. J'ai encore vu en VF.
Ah, je l'ai revu en VF, mais je l'avais vu en VO et moi, il est drôle.
Je l'ai vu en VO, mais j'ai pas reconnu sa voix.
Non, il fait trop bien, il fait vraiment l'enquêteur, un peu années 50, 60.
Maintenant que tu le dis, je...
Même plus, années 20, années 30 plutôt.
Ouais, j'ai pas reconnu sa voix, excuse-moi.
Et il l'a joué, il s'est mis à fond dedans et tout. Et Spider-Man, j'aime pas spécialement Spider-Man, mais celui-là, j'ai pris mon pied, il est rythmé, la bande son est cool. Les protagonistes qu'on retrouve dans le film sont sympas. Dans le film, ils sont sympas. Il y a le Scorpion, t'as le Kaïd. Le Kaïd, il est quand même plus massif que jamais, quoi. Le Kaïd, c'est pas un rigolo, quoi.
Non, mais non, mais voilà. C'est... Après, moi, je l'aime bien. Mais ouais. Bon, après avoir vu les Spider-Man, les films Spider-Man, ouais. Etc. Là, effectivement, ça change tous les codes, ça chamboule tout, ça remet tout en ordre. Un peu comme, tu l'as dit, le Tortue Ninja en animation, où les mecs, en fait, il y a zéro règle, ils refont tout.
Et là, ça bosse vraiment en planche de comics. Voilà. T'as vraiment le truc, ça passe, ça passe à une autre page, et des lumières improbables.
Et ça revient aux comics. Ouais. Ça revient vraiment aux comics et on arrête de faire des films n'importe quoi et on revient à la bande dessinée.
Moi, j'avais une grosse appréhension, c'est le truc des multivers. Franchement, j'en pouvais plus. J'ai lu le synopsis, j'ai fait mes merdes encore du multivers.
Parce que ça,
il est sorti avant les autres multivers de la cour.
Mais du coup, là, on s'en fout parce que le film est bien.
Voilà. Mais effectivement, ce truc de.
Non, et puis il a pas plusieurs lectures. On va dire que pour un adulte, comme un enfant, il va s'épanouir dans le film parce que le. Peter Parker, il est plus jeune que jamais. Là, il a quoi, 12 ans, 13 ans, même pas?
Non, il a 14-15 piges.
Ah, c'est pas loin. Mais du coup, il se retrouve confronté à un truc qui le dépasse complètement. Parce que ses pouvoirs, il est déco, il les maîtrise zéro, mais vraiment zéro de chez zéro.
Ah bah oui, il arrive direct dans le feu de l'action.
Dans le feu d'action.
Ah, c'est cool.
Et jusqu'à la fin, il va galérer de ouf avec ses pouvoirs et à se faire respecter. Il cherche une place dans la société.
Il croise un vieux Spider-Man blasé de la vie.
Ouais, qui est très drôle, mais j'aime bien Peter B. Parker. Cool. Et... La DA est superbe comme Tortue Ninja. Moi, ces films-là, je les conseille à n'importe quel parent à regarder avec des enfants.
L'animation est géniale.
Non plus, mais
ouais, ça va.
À partir de 10 ans, c'est très bien.
Et le truc génial avec l'animation, c'est qu'on peut dépasser les qualités qu'on peut avoir avec une réalisation classique. Quoi. La caméra, tu la places où tu veux, places où tu veux, et du coup, la charte graphique.
Mais
comique,
je pense, moi, c'est l'avenir des super-héros et des comics. Mmh. C'est en fait rester, les gars, sur de l'animation, arrêter de faire des films, ou alors faites des choses vraiment propres.
Comme Super, des films indépendants.
Non, faites des choses comme Batman ou Judge Red.
Et puis t'as des petits trucs, je sais pas si vous avez fait attention, mais au début, quand il maîtrise pas encore ses pouvoirs, t'as une réalisation qui est faite en 12 images par seconde. C'est très lent et tout. Et au fur et à mesure qu'il maîtrise, t'as le nombre d'images par seconde du Spider-Man Miles Morales qui s'accélère pour avoir une fluidité dans ses mouvements, une réalisation plus épique. Et c'est pour ça que tu le ressens plus, quoi, qu'il maîtrise son pouvoir et qu'à la fin, il est en totale maîtrise dans le... des petits trucs à la con qui sont bien foutus.
Que tu peux faire que sur l'animation.
Mais il y a plein de petits trucs qui sont vraiment bien foutus. Si tu jettes le coup d'œil, t'as des anecdotes. Franchement, le film est à voir, il mérite son Oscar. La suite est cool aussi. Normalement, il y a un troisième de prévu, mais je crois que les droits de Sony s'arrêtent d'ici peu.
Merde. Et maintenant est venue l'heure de la roulette pour savoir le prochain thème, les amis.
Et la roulette, messieurs dames, la roulette.
La roulette nous attend.
roule, petite roulette.
Et cinglé. Et le prochain thème... Post-apocalyptique.
Wow, ça c'est génial.
Eh bien...
Du cataclysme.
On a notre prochain thème, les gars. D'AU.
Bon, on va finir Spider-Man avec un morceau de Biggie Small, alias Notorious Big, Hypnotize.
Et nous, on se fait des bisous. Niggas don't think shit, stink pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right, if they head right, Biggie there, and I. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us, talk, go through us. Girls walk to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pop. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Yeah, I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Take that. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peace. Packing, asking who want it, they got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so fake. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I put hoes in NY onto DKNY. Miami, DC, prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty for the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? The niggas ride dicks. Frank White push the six or the Lexus LX. 4.5. Bulletproof glass tits if I want some ass. Gon' blast squeeze first. Ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and broads, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars. I still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, no for the plaintiff. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay still. Richer than Richie, so you niggas come and get me. Come on. Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy